Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Travailler dans un service social où on vous traite de sale race d'enculé, ou une femme d'un certain âge qui me dit que vous êtes lâche, que vous obéissez à l'office où je suis, entre parenthèses, je suis employé de cet office. Cette madame B a une intelligence au-delà de tout. Une autre personne qui venait tous les jours pour que je trouve un appartement, elle pleurait et maintenant qu'elle l'a, elle n'est jamais contente et me cause à moi des temps d'ennui. Pourtant, je l'ai aidée. Vive l'intelligence godiche. Voilà, je bats de tous les côtés. J'ai mon frère qui est mourant, je n'ai plus le moral, on me laisse seul, adieu ceux que j'ai bien aimés. Une année triste, crise, qui a eu comme rayon de soleil que mes histoires. Sans mes histoires, j'aurais tout arrêté. Mais vive la vie! La vie d'un autre, ça aide à vivre. Alors changer de vie. Si on me demande de changer de vie, d'être espion, je dis oui, de suite. Une autre vie, un autre nom, un autre pays. Tout changer. Et si l'on peut changer ma tête, c'est encore mieux. J'en ai assez de ma gueule, de ma vie. Après toutes ces années, je peux demander une autre vie, d'autres horizons, d'autres gens. Mais là, je veux vivre vraiment. Je veux de la douceur, de l'aventure, de la vraie. Adieu la médiocrité et toute cette grisaille. Je veux être libre. Avoir le droit de tuer. Je tuerai tous les imbéciles qui embêtent, qui enfoncent ma vie. Adieu les Médocs, ceux-ci qui... se complaisent dans la médiocrité depuis 40 ans, comme certaines Madame B, etc. Vive les gens intelligents. Je crois que malheureusement, à part dans mes histoires, je risque de très peu trouver des gens intéressants, surtout dans le milieu que je fréquente. Heureusement que dans mes histoires, il y a des gens bien. Bon, il faut que je finisse cet entracte. Est-ce que vous allez dire que... qu'est-ce que c'est que ce bazar qui parle pour ne rien dire? Et puis il est 14h50 pile. Et il me reste, avant de finir ma semaine, encore 12 pages. C'est long. Après je me repose et reprendrai demain matin à 7h. Demain c'est le 25 décembre 2000. Allez, du courage. Mais j'ai peur de reprendre cette histoire. Je ne sais pas comment je vais la continuer. J'ai le résumé, mais comment y faire des scènes? Et puis j'en ai marre. Bon, alors, du courage. Quand il aura fini, tu seras bien content. Allez, cherchons où tu en es et continuons. Fin de l'entracte. Deuxième époque. A ouvert la porte. Entre. Il entre. Ferme la porte. Je lui dis, n'aie pas peur, ma mère est absente. Elle est partie quelques jours en Australie voir une amie et les domestiques sont en congé ce soir. Gilles a les yeux brillants de plaisir. Il porte une robe de chambre en soie rouge. Frédéric est ébloui. Je lui dis, viens, allons au salon. Il le mène au salon. Suivant un grand couloir, il y a du parquet au sol, de la tapisserie beige au mur. une commode Louis XV, des portes en bois peintes en blanc. Il ouvre la porte. La pièce est dans la pénombre, juste éclairée par un feu de cheminée. Elle est meublée en salon Louis XV. Elle est très grande. Il y a une porte-fenêtre qui donne à un balcon. On ne voit pas grand-chose. Les flammes font des ombres qui bougent constamment. Je lui dis, allons nous asseoir près du feu. Près de la cheminée se trouve à terre une peau d'ours blanc. J'y lui dis, asseyons-nous à terre, c'est ce qu'ils font, face au feu. J'y lui dis, j'aime le feu, je passerai des heures à regarder les flammes. Ça m'hypnotise. Et toi, Frédéric lui dit, moi aussi, mais... j'ai pas souvent vu du feu, à part le feu de bois. Chez nous, les cheminées, on ne s'en sert pas. J'ai lui dit, peut-être qu'ils s'en servent pour cacher un trésor. Frédéric lui dit, tu crois? J'ai lui dit, non, je plaisante. J'aime m'imaginer des choses. Des fois, je me raconte des histoires, et toi? Moi aussi, lorsque j'en ai marre de cette vie. Reste un moment sans bouger, à regarder le feu. Puis, Gilles dit, je t'ai fait venir, c'est pour que l'on commence une nouvelle vie ensemble. Oui. Ensemble. Ça ne veut pas dire que l'on soit toujours ensemble. Mais même séparés, on doit être toujours réunis. Toujours réunis. À jamais. Pour le bien et le pire. Es-tu d'accord? Oui. Mais attention! Il n'y aura que nous deux qui comptons. Il faut détester les autres qui ne sont rien, être au-delà du monde et de ses lois morales ou autres. Ne plus avoir de famille, d'amis, d'amour. Surtout, ne pas aimer. Bien sûr, à part nous, et rien d'autre. Rien d'autre. Sortir du monde des humains. Ne faire que ce dont on a envie. Ne se donner aucune limite à nos désirs. Et s'il le faut, pour arriver à nos fins, donner la mort, la donner froidement. D'être avec moi, pour moi, pour toujours. Oui, j'accepte. Alors, Gilles se lève. Quitte sa robe de chambre, qui tombe à terre. Il est nu. Frédéric est subjugué par ce corps. Il lui dit, lève-toi et mets-toi nu. Frédéric, sans hésiter, le fait. Tu en auras d'autres. Gilles prend les vêtements et les jette au feu. Allongeons-nous. Et se rallonge sur la peau de bête. J'ai lui dit, nous serons toujours ensemble maintenant, à la vie, à la mort. Et il se penche pour lui donner un léger baiser sur les lèvres. Frédéric n'ose pas bouger. Il reste un moment sans bouger. Puis il dit, dis-moi ton désir le plus fort. Frédéric lui dit sans hésiter. Tuer les membres de ma famille et surtout mon frère parce qu'il m'a humilié, souillé. J'ai lui dit, nous les tuerons tous. Mais pour y arriver, il faudra cacher ton jeu. Sois comme tu es et attendons notre heure. Et puis, pourquoi ton frère? Parce que lui m'a fait plus de mal. Est-ce que je dois être le même avec lui? Oui, pour qu'il ne se doute de rien. De toute façon, tu ne risques rien. Tu ne peux être à lui, parce que tu es à moi. La vengeance doit être terrible. Frédéric lui demande, et toi? Gilles lui répond, moi, je ne cherche pas à me manger. Je veux jouer avec ces minus. Je les déteste. Il n'y a que nous. Frédéric lui demande, pourquoi les détestes-tu? Gilles lui dit, parce qu'ils sont médiocres, ils ne sont rien, veulent vivre à tout prix et acceptent toutes les humiliations de la vie, telles la mort, la maladie, la vieillesse, la bassesse, la médiocrité. Ils vivent de petits plaisirs, sans envergure, ça leur suffit. Ils passent leur temps à se plaindre et continuent à vivre. Ils se croient le centre du monde, veulent même un dieu qui soit un homme. Et si Dieu était un poisson, ils font l'amour d'une façon dégoûtante. Tu as essayé cette chose que l'on dit amour? Frédéric lui dit, non, pas vraiment, à part mon frère. J'ai lui dit, il vaut mieux se masturber, c'est plus beau et propre. Quand ils s'accouplent, on dirait des bêtes sauvages qui font des cris comme les cochons. Et dire que même les moches le font, c'est vraiment la bestialité. Je lui dis, je te comprends, avec mon frère, c'est humiliant. J'ai envie de vomir, et cela me tue. Je lui dis, je veux plus qu'il te souille. C'est un crime de le faire, ce salaud. Il aura une mort terrible et lente. Il souffrira énormément, je te le jure. Tu es un dieu, on n'a pas le droit de te faire ça. C'est pire que si on te tuait. Mon pauvre, ils sont bien des sauvages. Ta vengeance sera terrible. Puis, il se taise un moment. Malgré qu'ils soient nus, ils n'ont pas froid. Le feu éclaire leur corps. Frédéric ose à peine regarder son ami. Il le trouve très beau. Pourtant, il est moins beau que lui. Petit à petit, le silence de la nuit, seul le crépitement du feu, les flammes qui les inoptisent, ils s'endorment. Deux heures plus tard, Frédéric dort profondément. Gilles est penché sur lui et le regarde dormir. Le froid les réveille. Le feu s'est éteint. La pièce a une lumière pâle de lever du jour. Gilles lui dit, il faut se lever. Ils se lèvent tous deux. Gilles dit, allons prendre des vêtements. Dans la chambre. Frédéric le suit. Ils sortent du salon. La porte de la chambre éclaire et le fait entrer. Il éclaire parce qu'il ne fait pas suffisamment jour. La pièce est grande, belle. Il y a le coin fenêtre en demi-cercle. Les meubles sont Louis XV. Frédéric lui dit, tu as une belle chambre. Pas toi? Non, mes grands-parents m'ont mis vers les domestiques. J'ai fait, les salauds, ils vont le payer eux aussi. Tu verras. Je vais te payer la plus belle chambre de Paris, dans le plus grand hôtel de Paris. Je donne un baiser sur la joue. Et il va ouvrir son armoire à double porte. Là, il en sort deux costumes semblables, beige, des chemises, cravates, sous-vêtements. Il lui dit, j'ai tout mis en double pour que nous soyons toujours habillés de la même façon. J'ai pris ta taille en regardant dans la veste de ton costume. Tu peux y aller, c'est du bon. J'ai tout fait faire par Cardin. Frédéric regarde le costume. Oui, merci, c'est magnifique, je lui dis. Ce qui est merveilleux, c'est notre amitié. Allez, habillons-nous. Et il commence à s'habiller. Une fois qu'ils sont habillés, Gilles le mène à la cuisine pour prendre un petit déjeuner. Ils sortent de la chambre. Tiens, entre. Qu'est-ce que tu veux prendre ? Frédéric lui dit, café et jus de fruits. Orange ? Oui. Et Gilles prépare tout ça. Tiens, merci. Tout en prenant leur petit déjeuner, Frédéric dit, mais il est quelle heure ? 6 heures. 6 heures ? Oui, j'aime me lever tôt. Sortir tôt le matin, les rues sont calmes. La ville est encore endormie, Frédéric lui dit. Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Il lui dit, tu leur diras que tu étais avec moi. Que tu as passé la journée et la nuit avec moi. Il faut qu'ils s'habituent à nous voir ensemble. Est-ce que nous soyons toujours ensemble ? Peut-être. Nous devons être inséparables. Frédéric lui dit, mon frère va être furieux. Je lui dis, eh bien, il le sera. Plus les cochons sont en colère, plus le sang gicle. C'est bon pour le boudin et la chair. Frédéric lui dit, tu vas en faire du boudin ? Nous verrons. Allons, sortons. Et ils sortent de l'appartement. Quitte la cuisine. Lorsqu'ils sortent de l'immeuble, le jour est presque levé. Il fait un petit vent frais, pas désagréable. Les rues sont vides, le sol mouillé, il a dû pleuvoir dans la nuit. Il y a un léger vent, peut-être plus une brise qu'un vent. Il y a aussi une légère brume, ce qui donne une certaine douceur au paysage. La place de l'Étoile est vide de voitures. On n'entend pas le moindre bruit, à part celui de leurs pas. Malgré que les chantiers travaillent 24 heures sur 24, il y a une pause le matin pour la relève des ouvriers, ce qui fait que Paris redevient silencieux. Et c'est justement alors où les gens doivent commencer à penser à se lever. Comme le silence les endort, cela est très gênant pour eux. Parce qu'en plus du silence, il y a un côté biologique. Le silence se fait vers les 5 heures du matin, l'heure où le sommeil est encore profond. Ce qui fait que les gens se réveillent alors qu'ils peuvent dormir et que leur corps le leur demande. La nuit, ils ont dormi difficilement à cause du bruit des chantiers. Ça rend les gens de mauvaise humeur, irritables. Font moins bien attention à ce qu'ils font. Se sentent toute la journée fatigués. Ils ont souvent sommeil. Tout ceci n'est pas le cas de nos amis qui, eux, ont bien dormi parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont dormi dans un immeuble bien isolé, qui se sont levés tôt pour leur plaisir, parce que pas pour une obligation obligatoire. J'ai lui dit en marchant, tu vois, on a l'impression que Paris nous appartient. Oui, tu as raison. Il faudrait que ce soit toujours comme ça. Pas de gens, sales, mal habillés, moches, pas de voiture, rien que nous. J'ai lui dit, allons vers la Seine, voir le soleil se lever, et ils y vont. En marchant, Frédéric demande, si nous sommes par les autres, pourquoi est-ce que nos parents ne le sont pas? Gilles lui répond, je ne le sais pas. Peut-être que pour venir dans ce monde, il fallait un passage obligatoire et que ce passage était nos parents. Tiens, comme Dieu, Jésus a eu Marie. Frédéric lui demande, et d'où venons-nous? Peut-être de nulle part, d'ici. Il ne s'agit pas pour un dieu de venir d'un endroit, mais d'avoir une substance autre que les autres. Qu'importe où l'on est, ou d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on est. Tu comprends? Oui. Mais avons-nous un message à donner? Je lui dis, pourquoi un message? Nous n'avons rien demandé, pas de permission à demander, tout est à nous et nous pouvons faire ce que l'on veut. Les autres ne sont là que pour nous servir, ce sont des fourmis, rien que des fourmis, et nous ne leur devons rien. Même pas de la pitié. À partir d'hier au soir, nous n'appartenons plus à ce monde, à leur monde. Nous n'appartenons qu'à nous. Nous sommes unis à jamais. Frédéric lui dit « Oui, et j'en suis heureux de n'appartenir qu'à toi. Il n'y a que toi qui sois digne. » Qui sois digne que l'on t'aime. Ils sont arrivés sur les quais de Saône, de Seine. Ils se mettent sur le muret du quai pour voir la Seine et le ciel. Le ciel est gris, l'eau aussi, mais avec quelques reflets d'argent. Il fait légèrement brumeux. Sur l'autre rive, légèrement voilée, l'on voit les maisons de Paris. Cela donne un décor de guerre. Beaucoup de maisons sont à moitié effondrées, comme par un bombardement. Il y manque le dernier étage, une partie de la façade. Ce sont les batailles de la nuit. Les tueries, les balles, les incendies. On voit aussi au loin les gigantesques grues. La brume atténue la laideur du paysage. Frédéric dit, on dirait qu'on est dans une ville morte. Le soleil se lève petit à petit, rond, jaune, dans un décor. Dans ce décor, une couleur dure et pâle. Parce que ces rayons sont atténués par la brume. Ça donne un peu de couleur à la ville. La Seine a des reflets dorés, c'est très beau. Le soleil a fini de monter et reste à sa place. Gilles dit, voilà, le jour est commencé. Allons prendre notre petit déjeuner. Frédéric lui dit, une seconde fois, oui, pour le plaisir, viens. Et il s'éloigne. Traverse la chaussée pour aller du côté des maisons et des commerçants. La rue commence à s'animer. Il y a des gens qui sortent de leur maison pressés, des voitures qui se mettent en route. Des cars qui partent, les magasins s'ouvrent, enfin ceux qui ont quelque chose à vendre. Les cafés sortent leurs tables, les boulangers ouvrent leurs portes et l'on sent la douce odeur des croissants chauds. C'est délicieux. Les gens commencent à entrer dans les boutiques cafés. Les enfants sortent des immeubles en courant, leur cartable sur le dos. Ils courent, s'arrêtent. Tirent sur leurs vêtements, chandail, chaussettes, mangent du pain au chocolat, remontent aux chaussettes qu'ils ne veulent pas rester en haut. S'attrapent par leurs vêtements. Une petite fille range ses nappes devant la vitrine d'un magasin. Une autre joue à la marelle. Les garçons aux billes. Les enfants courent pour entrer dans un bureau de tabac, acheter des bonbons et des magazines Les femmes avec des cabas, l'air sérieux, vont faire leurs courses. Les cloches sonnent. Les grues se mettent en marche. La vie reprend. Une vie de labeur ou de misère. Mais où sont les miséreux? Eh bien, le jour, ils se tassent, se tairent, se cachent, de peur de se faire prendre. Parce qu'il est interdit de faire la manche et de traîner dans les rues comme ça. Le gouvernement a décidé de décréter que la misère n'existait plus et qu'il y avait la reprise économique. Donc plus de chômeurs, plus de miséreux. Et pour qu'il n'y en ait plus, ou plutôt pour être sûr qu'il n'y en ait plus, l'on cache la misère. C'est plus efficace, facile et sûr que la misère est supprimée pour de vrai. Maintenant, c'est tout le temps qu'on le fait. Avant, ce n'était qu'avant les élections où l'on cachait les chômeurs dans des stages, des travaux précaires et surtout où l'on trichait les chiffres. Maintenant, c'est mieux, il n'y a plus de chiffres ni de stages ni de travaux précaires. Parce qu'artificiellement, il n'y en a plus de chômeurs. Et si on en tue, on le supprime. Ça fait vraiment un chômeur en moins. Avant, il était caché, mais il sortait de sa cachette et chômage, le chômeur revenait. Maintenant, pour qu'ils ne reviennent pas, on le tue. Voilà pourquoi les SDF se cachent la journée. Dans les caves, égouts, greniers, etc. J'ai dit, allons dans ce café. C'est un grand café des boulevards, ils y rentrent. La salle est grande, décorée 1900. Il y a un peu de monde, des gens qui viennent prendre leur petit déjeuner. Des serveurs, en vêtements blanches et pantalons noirs, vont et viennent dans cette vaste pièce. Frédéric et Gilles vont s'asseoir à une table, l'un en face de l'autre. Un serveur vient à eux, un petit blond dans les 16 ans. Vous désirez, messieurs ? Gilles lui dit, un petit déjeuner, café au lait complet. Merci. Et le serveur s'éloigne. Gilles dit à Frédéric, j'adore prendre mon petit déjeuner. C'est le meilleur moment et le meilleur repas que je préfère. Frédéric lui dit, moi non, je préfère aucun repas parce que je les prends avec eux. Frédéric lui dit, Tu ne dois pas les voir. Et prends ton plaisir, comme si tu étais seul. C'est un peu difficile, parce que pendant les repas, c'est le moment où l'on fait les recommandations pour la journée. Tu fais semblant de les écouter, l'air pensif, rêveur, et tu penses à autre chose. Le serveur leur apporte leur petit déjeuner complet. Café, lait, croissant, beurre, confiture de myrtille, pain de mie, miel. Gilles dit, j'adore les croissants. Je les adore vraiment. J'en mangerai des kilos. Et ils commencent à manger. Ça leur fait du bien, parce qu'ils ont bien marché. Frédéric demande à Gilles, que vas-tu faire ce matin? Gilles lui dit, rentrer chez moi et lire un peu. Tu lis? Oui. En ce moment, je lis Nietzsche. Tu sais, le surhomme et tout. Ce qu'il dit est vrai. La bonté, l'humain, ne doit pas empêcher le surhomme d'aller de l'avant. La morale, ce n'est pas pour lui. Le surhomme, c'est l'homme à l'état pur. Pas entaché de morale, de pitié, de religion. Il est. Et doit garder son élan. Il ne doit pas être freiné par la pitié ou la morale. Frédéric lui dit, mais c'est l'antisocialisme. Gilles lui dit, le socialisme. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.